Konnichiwa tout le monde, comment vous allez bien? Vous êtes bien sur le mug. On va parler aujourd'hui de TikTok qui va vous payer pour regarder des vidéos. Alors, rien que ça. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous. Vous avez constaté mes progrès fulgurants en japonais, c'est-à-dire konnichiwa. Et voilà, ça s'arrête là. Ohayo gozaimasu. Gozaimasu. On ne prononce pas le U. Je ne suis pas... Hein, Duolingo, c'est vachement bien. Mais... je suis vachement nul. Vachement nul. Je me bats en ce moment là avec le merde, Kore ou Sore, this and that. Ha, Kore wa, Sore wa, dur, très dur. En plus, c'est nul parce que t'apprends des trucs dans Duolingo, puis après tu regardes Tokyo Vice ou Shogun. Bon, alors Shogun, il y a une excuse, il parle le vieux japonais. Mais tu reconnais rien. Ils ont pas du tout les mêmes expressions que t'as appris. Donc tu sens que tu vas arriver avec tes mots de Duolingo, tu vas passer juste pour un gros teubé, quoi. Alors. Mes moyens mnémotechniques absolument incroyables. Comment j'arrive à me souvenir de Kore ou Sore pour this and that? Attention, c'est tordu. Je suis parti de this is Sparta, hein, de 300, en me disant, bah, les Coréens aussi sont fiers, ils sont fiers comme Sparte. Donc this, c'est Korewa. This is Korewa, voilà. Et l'autre, c'est Solewa. Ah, putain. Non, c'est une catastrophe. J'ai l'impression de régresser à chaque cours. Ah non, mais mes moyens mnémotechniques, non, mais vous imaginez pas à quel point ça va me foutre dans la merde. Je vais arriver, je vais dire Spartawa. Non, ça marche pas du tout, hein, les moyens mnémotechniques. De toute façon, en regardant quelques vidéos sur le Japon, ce que disent beaucoup d'Européens qui sont partis vivre là-bas, c'est que bon, bah, le japonais est relativement compliqué à apprendre, notamment les différentes écritures, etc. Et il y a un moment, ils se disent, ça y est, je suis bon, je peux me lancer. Et ils commencent à se lancer dans des discussions en japonais, et là, ils disent, on pleure. En fait, il faut un certain temps, hein, quand même. Puis après, bah, y a des gens qui sont plus ou moins doués pour les langues. Moi, je suis pas du tout doué pour les langues, sans raconter mon histoire, mais je la raconte quand même. En fait, j'ai jamais appris de langue à l'école. Moi, l'anglais est ma langue natale. Donc, quand j'ai commencé à parler, j'ai parlé anglais. Après, j'ai appris le français parce qu'on parlait français à la maison. Donc, c'est ma deuxième langue natale. Mais à l'école, j'ai essayé l'allemand, j'ai essayé l'italien. Rien du tout. Jérôme, du coup, c'est quel article que tu nous feras demain parce que tu n'auras pas le temps ce matin? Oh, ça va. Samuel, il faut se méfier des traditions. Non, Non, après, moi, le but, honnêtement, le but que je me suis fixé en japonais, c'est connaître 2-3 formules de politesse. Je sais que je suis pas doué pour les langues, mais je trouve que c'est la politesse minimum, et je fais ça à chaque fois que je voyage, et je pense que vous aussi. C'est au moins connaître 2-3 mots, le bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, excusez-moi, où sont les toilettes? Voilà, des trucs de base, parce que je dirais que c'est un respect minimum. Je suis bilingue en anglais, alors c'est un peu plus compliqué comme je l'ai... J'étais bilingue, clairement, mais comme dans mon métier, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de continuer à... En fait, l'anglais, je redeviens bilingue au bout de 2-3 jours. Si tu m'immerges dans aux États-Unis, en Angleterre et tout, ça revient. Le truc, c'est que j'ai moins de vocabulaire que quelqu'un qui l'utilise tous les jours. Et du coup, j'ai un bon accent, mais je parle comme un teubé, ce qui donne quelque chose d'assez bizarre. Et on me regarde toujours un peu de travers quand je suis aux États-Unis, parce que j'ai le bon accent, mais je connais pas le vocabulaire. Donc, c'est un peu compliqué. Tu veux visiter Tokyo cette année? Ouais, bah alors, disons les choses clairement. Si vous avez des envies de Japon, c'est pas une mauvaise idée de commencer à préparer ça. C'est vrai que le yen est bas. Nous, on le voit. Alors, ça reste un voyage cher hein, quand même. Mais c'est vrai que les prix, on est avantagé avec l'euro hein, cette année. Nous, tout le problème de notre voyage actuel, c'est qu'on a été prévenu un peu trop tard. Enfin, on doit le prévoir un peu trop tard. Pour des raisons professionnelles, on a été averti relativement tard. Et le Japon, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Si vous voulez faire vraiment des trucs sympas, faut vous y prendre quasiment un an à l'avance. C'est un pays où il faut réserver énormément de choses. Et ils sont assez scrupuleux administrativement. Enfin, tu peux bien sûr toujours improviser un voyage si c'est ça qui te fait kiffer. Mais je pense que c'est un des pays où on peut moins improviser. Voilà. Oui, mais c'est ce que j'essaye de faire, Jinro, dans tous mes voyages. Au moins dire bonjour, s'il vous plaît. Enfin, voilà, mettre quelques mots, c'est un signe de respect, quoi. Voilà, les Japonaises, maintenant, quand même... Enfin, ça dépend des endroits, mais ils sont aussi bons que les Français en anglais. Voilà, pour vous dire où ils en sont. Après, on vit une époque incroyable, on a des traducteurs automatiques sur nos smartphones et tout ça. Les barrières de langue sont quand même moins contraignantes qu'autrefois. Non, mais dans tout pays, Baron Marutan, et toi tu connais bien, t'y es, il y a toujours un moyen de se débrouiller. Mais est-ce que tu es d'accord quand même pour dire qu'il faut beaucoup réserver les choses au Japon ? Surtout que là, le Japon, ils ont à faire face à un surtourisme. Ils sont quand même en train de mettre en place pas mal de systèmes de jauge touristique et ils ont raison de le faire. Je trouve qu'on devrait plus le faire en France. Mais des jauges touristiques, donc s'il y a des choses précises que tu veux voir, il faut se renseigner, quoi. Après, oui. Tu peux voyager bohème partout dans le monde. Il y a des pays où je conseille moins de le faire. Corée du Nord, vas-y, peut-être pas bohème. Mais... Alors, je connais Mitsugi, Mitsu. Je suis en contact avec lui, là. Tev, on se connaît par vidéo interposée. Je pense que Mitsu, on va se voir. Louis, je le connais, je l'ai vu plusieurs fois à Paris, mais je crois qu'il ne sera pas au Japon quand j'y serai, d'après ce que m'a dit Mitsu. Mais c'est vrai que je connais plus ce groupe-là des franco-japonais, youtubeurs, que d'autres que je regarde, mais je prendrai peut-être contact, je vais voir. T'as rencontré Mitsugi avec Pépé Garcia il y a 3 ans, ouais. Est-ce que je vais faire l'Everest? Non. On a déjà parlé, parce que je sais qu'il y a, il y a beaucoup de discussions autour de l'ascension de l'Everest par Inoxtag. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que c'est... Tout dépend de la vidéo qu'il va faire sur l'Everest, mais il peut se servir de sa notoriété pour justement sensibiliser sur les problèmes autour de l'Everest. Je trouve que le procès d'intention qui lui est fait actuellement est très légèrement déplacé. En fait, tout dépend de la vidéo qu'il va faire. Ouais, Baron Marutan, toi, t'es au Japon, ouais. Le truc qui m'a surpris au Japon, c'était les vélos. J'ai failli me prendre un vélo sur le trottoir. Va pas en Hollande, hein. Tu vas mourir, hein. Ouais, tu vis depuis 20 ans au Japon, ouais, Baron Marutan. T'es à Tokyo, c'est ça, Baron Marutan? Tu reviens du Japon, t'as pris des seaux d'eau? Ah. Ah, et fanboy, t'étais au Japon? J'ai pas vu. Là, j'ai vu des images, les cerisiers sont en fleurs. Enfin, c'est un peu tard dans l'année, il paraît. Toi aussi, Medo, t'es au Japon? Ouais. Ah, il flotte beaucoup? Marrant, c'est pas la saison, je crois. Mais... L'alpinisme, c'est sérieux. Il s'est donné les moyens, hein, quand même, Inoxtag. Il a pas... Enfin, il a fait un vrai entraînement. Il est pris en charge quand même par un vrai guide de haute montagne. C'est pas... Je dirais qu'il s'est donné les moyens. Je trouve ça un peu de la part des alpinistes ou des gens de montagne. Il y a des articles, ouais, ils ne devraient pas faire ça. C'est un peu du gatekeeping. Je veux dire, si sa vidéo permet de sensibiliser les gens à la beauté de faire de la montagne, mais au respect qu'on doit avoir quand on fait de la montagne, il aura profité de sa notoriété pour passer un message. Ça peut être intéressant aussi. On verra la vidéo qu'il va faire. Si sa vidéo, c'est « Ouais, regardez, je joue à la Game Boy en haut de l'Everest et je jette des pots de bananes et voilà. » Bien évidemment, ça sera nul. Mais voilà. D'accord, il pleut beaucoup, donc les soeurs... Bah, qu'il pleuve beaucoup avant que j'arrive. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Allez, on va parler des articles quand même, hein. On n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps au Japon. Japon, d'ailleurs, qui va envoyer un Japonais sur la Lune. Mais c'est pas dans les news, mais je la donne quand même. De quoi on va parler ce matin? On va parler de Kobo. Donc, c'est un article de Phone Android. Kobo qui va lancer ses premières liseuses couleurs. Adieu le noir et blanc. Nous parlerons également avec Mac Forever, top ou flop, le Vision Pro n'intéresse pas les développeurs. Nous parlerons avec Numérama du Pass Navigo qui se rapproche de l'iPhone, mais pas forcément en mai, contrairement aux news que vous avez peut-être vu passer. Nous parlerons avec Phone Android de Google Photos L'outil d'édition des images par IA des Pixel 8 sera bientôt disponible gratuitement pour tous les smartphones Android. Bonne nouvelle, mais il y a une douille. Nous parlerons avec TheConversation.com de l'AI Act, ou comment encadrer les systèmes d'IA en Europe, les lois européennes qui sont en train d'être mises au point. Nous parlerons, et c'était un peu le titre de ce mug, avec Phone Android toujours, décidément j'ai pris beaucoup d'articles chez eux, de TikTok, qui vous pouvez désormais gagner de l'argent en passant beaucoup de temps sur l'application. Je vous expliquerai un petit peu. Nous fermerons le bal, si on a le temps, bien évidemment, avec un article que j'ai trouvé assez intéressant de l'ADN.eu. Qui sont ces internautes ingénieurs du chaos qui veulent voir le monde brûler? On parlera effectivement des gens qui relaient la merde sur Internet. Pourquoi font-ils ça? Eh bien, une étude très sérieuse a été menée sur ces gens-là. Et le résultat risque de vous surprendre. Voilà. Voilà, voilà. Voilà en tout cas pour le sommaire, on commence tout de suite, on va parler effectivement, je vais aller assez vite sur les premiers articles, parce que c'est pas forcément des articles à débat. Et oui, exactement, l'e-ink couleur, c'est la nouvelle révolution des liseuses. Alors en vrai, l'e-ink couleur, les premiers essais datent d'il y a pas mal de temps, mais maintenant on commence à arriver à des choses plus convaincantes. Et du coup, Rakuten Kobo, puisque maintenant Kobo appartient à Rakuten, lance deux appareils, le Kobo Libra Color et le Kobo Clara Color. Donc l'écran couleur utilise une technologie qui s'appelle le Kaleido D-Ink. Dans les deux derniers e-readers, le Kaleido élargit la palette de couleurs pour inclure une gamme de teintes subtiles et de tons pastel par rapport au papier électronique noir et blanc traditionnel. Alors, je suis allé un peu m'informer sur la techno. Ça va pas vous permettre l'affichage LCD de vos photos, OLED de vos photos, pardon. C'est limité pour l'instant à 4096 couleurs, nuances de couleurs. Et le rendu est un petit peu palo quand même. En fait, il va faire des gammes de couleurs par tramage, en fait, un peu comme l'impression sur papier. Alors, ça a l'air. J'ai lu des reports. Cette nouvelle techno, justement, qui va renforcer un peu les contrastes, permet de lire des BD en couleur, vous n'aurez pas d'aussi belles couleurs que sur le papier. On n'en est pas encore là. Mais vous aurez quand même le confort de lecture de l'e-ink, qui est bien supérieur quand même à celui de nos écrans OLED ou quoi que ce soit. Et également une consommation beaucoup plus basse. Donc, c'est... On est encore très très loin de pouvoir regarder des vidéos YouTube sur une liseuse Kindle ou Kobo. Hein. D'abord pour la vitesse d'affichage, il y a ça. Et la restitution des couleurs, c'est déjà pas mal, hein, 4096. C'est ce qu'on avait sur les ordinateurs il y a 30 ans, sur les écrans d'ordinateur. Ça permet quand même déjà de restituer pas mal de teintes. Après, on n'est pas dans les subtilités dans l'affichage photo. Voilà. C'est pour ça que je dis bien pour lire des BD. Éventuellement, la couleur va permettre peut-être à des magazines de commencer à être plus intéressants. Mais regarder une photo couleur sur ce type de liseuse, c'est pas encore une expérience de ouf, quoi. En gros, ils commercialisent une V1. Non, c'est pas une V1. Justement, c'est la troisième itération de cette technologie Kaleido. Elle va en progressant. Voilà. Elle va en progressant, notamment en termes de contraste. C'est-à-dire que, en vrai, il y avait déjà des liseuses couleurs ces dernières années, mais les teintes étaient très palottes. Il y avait vraiment un gros voile blanc sur les teintes. Il n'y avait pas vraiment de contraste. Après, moi, m'intéresse pas forcément. Alors oui, j'ai oublié de donner les prix. Ça sera 230 euros, qui est relativement cher pour la Libra 2. Et la Clara Color, elle sera à 160€. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas tant pour la lecture. Je lis pas énormément de BD. Les magazines, la restitution des photos, faut voir. Par contre, ça m'intéresse avec un stylet. J'avoue que j'aime beaucoup travailler avec mon iPad et mon stylet, notamment sur des freeform et tout. La prise de notes sur de l'e-ink, j'ai essayé, je trouve ça très très agréable, mais c'est du noir et blanc. Et moi, je fais beaucoup de schémas, beaucoup de croquis, beaucoup de flèches. J'ai besoin d'un minimum de couleurs pour mes schémas, en fait. Je dessine pas forcément, mais j'aime faire des schémas avec des flèches de couleurs, des trucs comme ça. Donc ça pourrait m'intéresser carrément. Ça pourrait m'intéresser carrément. Salut Basti. J'avoue qu'une tablette e-ink avec 4096 couleurs, nuances et un stylet, je suis chaud. Pourquoi utiliser une liseuse quand on a une tablette? C'est beaucoup, beaucoup plus confortable pour lire, Patitus. Moi, j'ai déjà essayé de lire un livre sur l'iPad. Pourtant, l'iPad a un bon écran. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérience de lecture sur de l'e-ink. On ne va pas faire un cours sur la couleur. Mais entre la couleur soustractive et additive, en gros, l'e-ink, ça simule le blanc du papier. Sur un écran d'iPad, le blanc, c'est de la lumière qui projetée dans ta gueule, tu vois. Donc, c'est toute la différence. Après, il y a d'autres avantages à la liseuse. La batterie, la légèreté, l'étanchéité, enfin, voilà. Mais tous ceux qui lisent des bouquins vous diront qu'une liseuse, c'est une expérience incomparable par rapport à lire sur un iPad. Donc, c'est en ça que c'est intéressant aussi que la couleur arrive sur l'e-ink. C'est pas qu'une une question d'abîmer moins les yeux, c'est vraiment une question de confort. Quand tu regardes une série, un film sur une tablette, l'image, elle bouge tout le temps. Donc, t'as pas... Voilà, le fait que la lumière te soit projetée te gêne moins. Par contre, quand tu lis un bouquin, tes yeux bougent beaucoup plus lentement et le blanc de page, donc c'est pas la même utilisation. Rien ne vaut un bon vieux papier. Ben, on en reparlera quand tu auras lâché ton bouquin dans la rivière ou qu'il aura pris feu. Hein, Arovan? Après, je suis d'accord, le papier, le contact du papier, c'est quelque chose de cool. Mais je trouve que... Alors moi, en ce moment, je lis trop peu de bouquins. Je n'utilise pas assez ma liseuse. J'aimerais lire plus, mais je suis plus tenté à regarder des séries. C'est vrai que moi, je suis vachement content de ne plus avoir une bibliothèque de livres de poche. Je lisais beaucoup autrefois, mais j'avais une quantité de livres de poche chez moi, et c'est pas des livres en bon papier, c'est pas les gens qui disent « oui, il faut toujours lire un livre en papier ». Non, les livres de poche, je préfère les livres sur une liseuse. C'est très pratique, quoi. La liseuse dans la rivière, c'est étanche, Basti. Saute, récupère ta liseuse. Après, je suis d'accord, un beau livre relié, voilà, des très beaux livres, ça reste un objet. Mais je suis désolé, les livres de poche, c'est du papier dégueulasse qui pue. Peut-être que ta liseuse, elle brûle, mais tes livres sont sauvegardés, hein. Il suffit de racheter une autre liseuse et tu retrouves ta bibliothèque. Par contre, ta bibliothèque, elle crame. Bah, elle a cramé, voilà. Et vous êtes bien gentil, c'est beau une librairie, bah ouais, mais, une bibliothèque, bah ouais, mais vous habitez pas Paris, hein. Moi, j'avais des livres jusque dans les chiottes, hein, quand j'étais jeune, hein. À Paris, le mètre carré, ça coûte, hein. Non, il n'y a pas beaucoup de courant, Bastille. C'est bon, tu peux sauter. Vas-y, je te suis. C'est très personnel, mais j'aime pas l'odeur des livres. Moi, ça dépend. Un très beau livre relié, machin et tout, j'aime bien. Mais je suis désolé. Je suis pas du genre à sniffer les livres de poche. Hein. C'est un papier assez dégueulasse, les livres de poche. Donc les gens qui me disent le papier, non, je suis désolé pour les livres de poche. Je préfère lire sur une liseuse. Non, ça sent très bon, les livres. Les livres de poche, ça pue du cul. Quelqu'un a une bouée pour Bastille. Il a l'air de se débattre là avec sa liseuse dans la rivière. Ouais, c'est censé. Mais bon, comme quoi, il y a des débats dans tous les articles. Allez, on va passer au Vision Pro. Là, il y a débat, top ou flop. Ouais. Ça décolle pas. Hein. C'est marrant, hein. Le Vision Pro. Mais alors je parle pas spécifiquement du Vision Pro, mais il y a une vidéo sur les flops, une nouvelle vidéo de flop qui arrive. Ça va être des flops Apple, je vous spoil un peu. Et très intéressant, comme le Vision Pro, il y a eu 2 jours de hype absolue. Tout le monde était là, oh, c'est ça le futur, c'est catastrophique, les gens qui se baladent avec des chiens... Putain, on n'en entend plus du tout parler, quoi. Plus du tout. C'est le top du flop. Ça ne veut pas dire non plus que c'est un flop, mais alors le creux de la vague, il est assez impressionnant. Et justement, et c'est ce que cet article dit, le chef du marketing d'Apple, Greg Wozniak, putain, j'ai du mal avec les noms polonais, était très fier de dire qu'il y avait 1000 applications Vision OS qui étaient désormais disponibles, plus les 1,5 million d'applications iPad qui sont compatibles avec le Vision Pro. Mais maintenant, on est à 2 mois après la sortie. Et ben, en fait, il n'y a pas tellement plus d'applications. Alors, plusieurs raisons à ça, bien évidemment. Là, justement, on voit un schéma assez intéressant. Le constat n'est pas brillant quand on montre les chiffres compilés, dans le graphique ci-dessous. Après un pic juste avant le lancement, la courbe s'est inversée pour atteindre un niveau proche du néant. Donc, en gros, il n'y a plus de nouvelles applications qui sortent pour le Vision Pro. Cette analyse est faite par AppFigure, qui correspond pas vraiment à ce qu'annonce Apple. Alors, pourquoi ça augmente pas? C'est relativement simple. Effectivement, le Vision Pro s'est bien vendu pour un prototype, 200 000 exemplaires. Sur ces 200 000 exemplaires, ce qui serait intéressant, alors, il y en a quelques-uns qui l'ont rendu, mais honnêtement, c'était un épiphénomène, ça. Il y a eu quelques titres de presse là-dessus. Les gens rendent leur Vision Pro. En vrai, ils n'ont pas rendu plus que ça. Par contre, est-ce qu'ils l'utilisent? Moi, j'ai lu quelques articles et puis je vois un peu sur les réseaux sociaux ceux qui l'ont acheté. Bon, ils le ressortent dès qu'Apple fait une mise à jour. Léo Duff et JB ont fait une vidéo, un short récemment où ils montraient les nouvelles fonctions. Avec les avatars. Est-ce qu'ils les utilisent au quotidien? Alors, il y en a qui disent oui, j'utilise ça au quotidien, voilà ce que je fais avec, etc. Mais je mets quand même ma main coupée que la plupart qui l'ont, aujourd'hui, le Vision Pro, l'utilisent pas beaucoup. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que justement, vu qu'il y a peu de gens qui l'utilisent, les développeurs se disent à quoi bon développer. Et puis même si 200 000 ventes, c'est beaucoup, c'est pas une adoption de masse, même pour les États-Unis, puisqu'il n'est disponible qu'aux États-Unis. Le prix est quand même un sérieux frein à l'adoption de ce produit. Mais le problème, c'est que c'est un frein aussi pour un développeur, le prix. C'est-à-dire l'appareil, puisque les développeurs doivent le payer aussi hein, pour développer dessus, et l'appareil est peut-être trop cher pour être acheté par de nombreux développeurs qui ne voient pas de retour sur investissement. Parce que mine de rien, il faut les amortir, les 5000 boules, quoi. Ou d'engouement particulier. Et aussi, les développeurs voient qu'actuellement, là, plus personne ne parle du Vision Pro. En outre, les développeurs doivent suivre un parcours du combattant pour récupérer un Vision Pro. Alors, ça, c'est dans le cadre où ils en demandent un à Apple, ce qui est faisable quand tu as un compte développeur. Mais manifestement, c'est pas simple que Apple te prête un Vision Pro pour le développement. Les applications disponibles sont donc très restreintes. Ce sont pour la plupart celles de gros éditeurs comme Microsoft. Et elles sont payantes, les applications, pour la plupart. Certains jurent même qu'ils ne s'aventureront pas à développer la moindre application, comme Netflix. Là, je crois plus à une histoire de bras de fer que... D'autres se font prier, comme YouTube. Là aussi, c'est une question de bras de fer. La conclusion semble assez évidente pour AppFigure. Le nombre d'utilisateurs serait insuffisant pour investir et développer des applications. Le Vision Pro serait plutôt un flop, mais certains diraient un produit de niche. Moi, j'ajouterais qu'on est en phase 1. Et Apple sait très bien qu'il en a vendu plus qu'il n'avait anticipé, mais que les gens ne l'utilisent pas beaucoup et que pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Apple a un plan long terme pour le Vision Pro. Donc, faut voir le narratif derrière qu'ils vont nous faire. Là, en fait, ils voulaient le. Si Apple l'a sorti, ce Vision Pro, c'est d'abord pour commencer à escalader le truc le plus dur. C'est que pour l'instant, l'objet fait peur. L'objet est cringe. Voilà, les gens fantasment beaucoup sur le monde de demain où tout le monde sera aveugle avec son Vision Pro. Ce qui est toujours une phase. Pour une nouvelle technologie aussi disruptive, c'est une phase par laquelle les produits doivent passer. C'est-à-dire que maintenant, Apple est en train de préparer la phase 2 du produit, le rendre cool, en fait. Je continue à penser qu'il est beaucoup trop tôt pour penser que c'est un flop. Ou penser que c'est une réussite. C'est beaucoup trop tôt dans l'histoire du produit. C'est dommage d'avoir commencé la gamme par le pro. Oui et non, parce qu'imagine, ils arrivent dans 2 ans avec un produit 2 fois moins cher, un Vision Pro, un Vision pas pro, mais qui fait globalement presque aussi bien que le pro. Sauf qu'il aura une finition plastique. Du coup, il sera plus léger. Et peut-être 2-3 trucs en moins que le Vision Pro. Ben, ils vont cartonner parce que les gens auront quand même en tête « Ouais, le Vision Pro, ça avait l'air dingue quand même pour certains trucs. Et là, je peux l'avoir 2 fois moins cher. » Donc, c'est presque normal qu'ils aient sorti un Pro avant. De toute façon, ils étaient obligés. Les processus industriels pour fabriquer le Vision aujourd'hui font qu'ils ne peuvent pas en sortir énormément. Donc forcément, c'est un pro et très très cher. Ils n'ont pas encore... En fait, on oublie toujours dans la tech que derrière nos smartphones, derrière nos objets tech, il y a l'industrialisation de ces objets tech. Et là, la fabrication du Vision Pro à l'heure actuelle, on est au stade... quasi artisanal. Je dirais pas quand même qu'ils font chaque Vision Pro à la main, Mais on n'a pas encore des grandes chaînes de production. Parce que des grandes chaînes de production, il faut du temps pour les mettre en place, il faut les expérimenter, etc. Après, bon, certains d'entre vous pensent que c'est déjà un flop. Moi, je dis qu'il est trop tôt pour se prononcer. Mais je pense que là où Apple a peut-être du souci à se faire, c'est pas ça. C'est plutôt l'information que les développeurs ne s'intéressent pas au Vision Pro et que Apple, si j'étais Apple, je ferais tout pour mettre le Vision Pro dans les mains des développeurs. Je leur donnerais gratuitement un Vision Pro aux développeurs, je ferais un programme pour accéder au Vision Pro vraiment pas cher parce qu'en fait, le salut d'Apple repose dans les mains des développeurs. Si les développeurs se mettent à développer pour le Vision Pro, il y en a peut-être un qui va trouver l'application que tout le monde veut, qui fera que tout le monde voudra acheter un Vision. Pas forcément un Pro, mais un Vision. Que ça soit un jeu, que ça soit de la gym, que ça soit un truc où les gens vont, le grand public va se dire « Ah, c'est, en fait, c'est cool ». J'aimerais bien, ça je peux pas le faire avec mon iPhone, ça je peux pas le faire avec un autre produit, et j'ai vraiment envie de le faire. Apple peut déjà mettre ses propres softs. Oui, mais Apple c'est très bien, une des grosses raisons du succès de l'iPhone ne vient pas de chez Apple. Elle vient du fait que Apple a compris qu'il fallait faire un App Store, parce que je vous rappelle que le premier iPhone est sorti sans App Store. Et en fait, c'est les communautés de devs autour d'Apple qui ont commencé à faire des applications super cool autour de l'iPhone, qui ont rendu aussi, qui ont fait de l'iPhone un succès. Si l'iPhone avait continué à ne pas avoir d'App Store, je ne suis pas sûr qu'ils en seraient là aujourd'hui. Donc, ouais, je serais Apple, je ferais tout pour que les développeurs aient un accès facile au Vision Pro et qu'ils commencent tous à jouer avec, quoi, à voir ce qu'ils pourraient faire. Les ressources internes d'Apple ne suffiront pas à trouver la killer feature. Alors, pour le cas de Netflix et de YouTube, quand je dis c'est plus un bras de fer, on en avait déjà parlé, je pense que s'il n'y a pas d'application Netflix ni YouTube, c'est un peu une manière passive-agressive de la part de Google et de Netflix de dire à Apple « Tu veux qu'on t'aide là pour tes lunettes de ski là ? Va peut-être falloir qu'on renégocie un petit peu les contrats là, notamment voilà, le fric que tu nous prends pour chaque abonnement. » Ce serait pas mal qu'on se fasse un petit contrat en one-to-one comme tu as fait avec Amazon. Parce que vous savez que Amazon a un contrat spécial avec Apple. Donc là, on est plus dans du... Voilà, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Surtout dans le cas de... Bah, les deux. C'est clair que ne pas avoir Netflix et ne pas avoir YouTube en natif sur le Vision Pro est un caillou dans la chaussure du Vision Pro. Jérôme, j'approuve que n'a pas acheté en import le Vision Pro à l'heure actuelle. Si le Vision Pro devenait indispensable et novateur pour la chaîne, là où ils font. Écoute, moi j'attends de toute façon pour des raisons aussi comptables. J'attends qu'il soit dispo en France. Je pense pas qu'une vidéo de test soit très intéressante à ce stade. Faudrait voir. En fait, mon envie, alors je parle au niveau perso, mon envie du Vision Pro, elle est passée. Je suis curieux. Bien évidemment, j'ai envie de le tester. Là, j'aurais eu tout à fait des opportunités pour qu'on me le prête un jour ou un quart d'heure. Il y a des gens qui me l'ont proposé. Non, ce qui m'intéresse là, c'est de l'avoir en fait et de vraiment faire des trucs à moi dessus. Parce que pour moi, la phase de « je veux à tout prix l'essayer par curiosité », elle est passée, quoi. Elle est un peu passée. Oui, les deux, trois premiers jours, quand tout le monde les avait, j'étais là, hein, fais chier, je suis une chaîne tech, j'aurais peut-être dû partir aux États-Unis en prendre un. Après, la raison m'a vite rappelé à la raison. D'abord pour des raisons de garantie. En plus, bah, moi, voilà, j'ai des lunettes, tu pouvais pas avoir une pression. Enfin bon, trop de friction autour d'un import du Vision Pro. Et puis, 5000 boules, hein, sans compter le billet d'avion et la nuit d'hôtel à New York, tu vois. Parce que je vais pas faire l'aller-retour dans la journée. Je préfère à la limite ces 5000 boules. On les a gardées pour aller produire 2-3 vidéos au Japon, tu vois. Je préfère ça. Et puis, bah voilà, on verra quand il sera dispo en France. Et en plus, pour les vues de la chaîne, alors JB a joué un très, très joli coup, hein, The High Collection. Il a fait beaucoup de vues avec sa vidéo parce qu'il a été le premier. Les autres YouTubeurs, Léo Duff, bon, il fait toujours pas mal de vues parce que c'est Léo Duff. Mais ceux qui l'avaient pris, des Mac Forever, Frandroid, etc., j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait des vues de ouf. Donc, est-ce que ça valait le coup d'aller le chercher à New York pour... Ça n'a pas eu un effet incroyable sur les vues, en fait. Ouais, il y a Papessan, il y a... Oh, il y en a quelques-uns qui l'ont pris en France, ouais. Après, il y en a qui l'ont pris pour pouvoir et qui ont très bien compris qu'il y avait un moyen de, voilà, notamment sur TikTok, les réseaux sociaux, faire un peu le buzz autour de « je porte un Vision Pro » les 2-3 premiers jours. Mais, ah ouais, Locan l'a acheté. C'est vraiment un acheteur compulsif, Locan. Hein. Parce que, putain, c'est quand même un sacré budget, hein. C'est quand même le budget que nous, on met dans un Mac quand on le met en prod, quoi, pour la production de vidéos. Mais après, moi, je jette absolument pas la pierre à qui que ce soit. À titre personnel, si j'avais eu 5000 euros à claquer, je l'aurais peut-être acheté. Mais je n'ai pas 5000 euros à titre personnel. Pour me faire un plaisir. Je peux me faire un plaisir actuellement dans les centaines d'euros, mais je ne peux pas me faire un plaisir dans les milliers d'euros. Je n'ai absolument pas à me plaindre de ma situation économique, mais elle ne me permet pas de me faire des caprices à 5000 euros à l'heure actuelle. Je n'ai pas assez de revenus. Après, en termes d'entreprise, en tant que chef de l'entreprise Naotech et de sa rentabilité, j'ai jugé effectivement que d'investir 5000 euros de la trésorerie de la boîte, soit il fallait faire bien en avance et être garanti d'en avoir un dès le premier jour, ce qui n'était pas garanti. The High Collection, lui, connaît des gens chez Apple, donc lui, il était sûr d'avoir son exemplaire jour 1, moi non. Donc, ça aurait été un risque industriel trop grand, quoi. Pour Locan, c'est un cadeau d'une entreprise. Bah, moi, en vrai, ça, il faut que ça soit clair dans vos têtes, c'est pas Jérôme qui achète les produits tech. C'est notre entreprise qui les achète. La même qui paye nos salaires, etc. Donc, 5000 euros dans une trésor, c'est quand même un... On n'a pas une trésor de ouf, quoi. « Les produits qui font un peu plus perso, comme l'Apple Watch aussi. Oui, tout à fait. En fait, ces produits appartiennent à mon entreprise. Et c'est pas tout à fait pareil que de les avoir. C'est-à-dire que, voilà, en cas de problème de trésor ou quoi que ce soit, puis moi, en gros, ces appareils, même l'Apple Watch, je sais que je vais la revendre pour pouvoir pour que la chaîne puisse acheter la suivante, etc. C'est pas un objet à moi. Je peux pas me permettre d'aller le revendre contre du liquide personnellement. C'est de l'abus de biens sociaux, quoi. J'en profite en parlant d'abus de biens sociaux, d'abuser de vos abonnements. Merci Obsidian VFX pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Tech Wheels pour ton 26e mois d'abonnement. Merci RG0665 pour ton 34e mois d'abonnement. Merci Manu03550 pour ton 32e mois d'abonnement. Merci XionFR pour ton 41e mois d'abonnement. Merci Copperfield93 pour ton 8e mois d'abonnement. On est bien dans le train de la hype niveau 3. Merci Lunita TV pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Eliav pour ton 36e mois d'abonnement. Merci Flo645 pour ton 31e mois d'abonnement. Merci Macway84 pour ton 27e mois d'abonnement. Merci Brezand pour ton 48e mois d'abonnement. Merci Xemodri pour ton abonnement. Merci Seven pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Alias Lu pour ton 45e mois d'abonnement. Merci Planetscape Sigil pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Bean pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Artragis pour ton 28e mois d'abonnement. Merci Maël QSD pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Olive 40. C'était. Olive 40, je te remercie. Mais c'était avant-hier. Merci en tout cas les contributeurs du jour. Merci beaucoup. Mais après, oui, c'est un vrai. En tout cas, au niveau de la tech, il y a quand même des choses que je m'achète pour moi, dans mes besoins tech. Mais globalement, je vais être franc, oui, j'achète pas un iPhone pour moi et un iPhone pour la chaîne. Disons que mon iPhone, d'ailleurs. J'ai fait un truc cette année pour que les choses soient plus claires. Cet iPhone ne s'appelle pas l'iPhone de Jérôme. Il s'appelle l'iPhone de Naotech. Ce n'est pas le mien. Si je le pète ou je le perds, je me fais engueuler par le patron. Ok, le patron, c'est moi, mais je m'engueule quand même. Si je l'oublie dans un train comme un iPad, bah c'est une perte sèche pour la trésorerie. Et là, pour le coup, pour la trésorerie, je suis pas. J'ai des comptes à rendre. Je suis pas le seul dans cette société, et j'ai des comptes à rendre entre guillemets. Donc voilà, pour démystifier un petit peu les choses. Allez, on passe à l'article suivant. Je passe beaucoup trop de temps sur les articles. C'est fou. On va parler du Pass Navigo. Le Pass Navigo, vous avez peut-être vu passer des infos que le Pass Navigo arrivait en mai. Hop, 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 hop. Tout de suite, Île-de-France Mobilité, ils ont fait wow, 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 wow. Attention. Attention. Ce n'est pas encore officiel que le Navigo arrive sur iPhone en mai. Ça va peut-être se passer. Je vous adore. Île-de-France Mobilité, je vous adore. Donc, peut-être bien que oui, en mai, mais ça sera peut-être juin, mais ça sera peut-être même juillet à la bourre, juste avant les JO. En gros, la seule information qu'il faut retenir, c'est « Oh putain, il ne faut pas qu'on rate les JO ». Donc ça, c'est la vraie deadline. C'est les JO. Mais il serait bien capable de nous le sortir deux jours avant, hein, ces cons-là. Désolé, hein. C'est un con affectueux. Non, en plus, c'est peut-être pas les seuls cons de l'histoire, dans le sens où Apple On sent que Apple voudrait bien faire un coup de communication aussi. Apple France, ça y est, votre passe Navigo enfin sur l'iPhone, bien mieux protégé. Non, il ne dirait pas ça, mais en gros, voilà, ça serait un bon coup de com. Donc, je pense que Apple, ça les arrange aussi que ça soit très proche des JO. Sachant que, en gros, Île-de-France Mobilité, ils sont obligés de bosser avec Apple. Et c'est là où ça devient compliqué. J'explique. Récemment, avec le DMA à l'européenne, Apple a dû ouvrir le fonctionnement de sa puce NFT. NFC, pardon. Mais France Mobilité, enfin Île-de-France Mobilité, a commencé le travail sur le Navigo avant ça. Et donc, ils étaient obligés de travailler avec Apple pour assurer la compatibilité du Navigo avec la puce NFC qui est dans les iPhones, qui a un fonctionnement bien particulier. Et du coup, ils peuvent pas faire machine arrière et dire « Ouais, non, maintenant, on fait un autre système. On n'a pas besoin de bosser directement avec Apple puisqu'ils ont ouvert le fonctionnement de leur puce. » Donc, en fait... tout ça pour dire, pour l'instant, en tout cas, Île-de-France Mobilité est obligé de travailler main dans la main avec Apple. Et travailler main dans la main avec Apple, ça veut dire être soumis à Apple. Apple qui va te dire « Ok, bah on accepte ça dans l'App Store. Alors, vous voulez le mettre dans carte ? On va voir. On voit ça avec nos ingénieurs, on vous rappelle. Hein. » Et 3 mois après, ils n'ont toujours pas rappelé, quoi. Donc, bah, le principe, hein, qui sera très cool, et que les gens qui ont un Android peuvent déjà faire depuis longtemps, bah, c'est simplement de dématérialiser votre carte Navigo. Alors, il y aura des limitations, tout ne fonctionnera pas en dématérialisé, tous les abonnements ne fonctionneront pas, je pense que ça sera progressif. Et ce truc n'a pas arrêté d'être retardé. On en parle depuis 5-6 ans hein, de l'arrivée du Navigo sur l'iPhone. Et on est très en retard sur même d'autres villes de France, je crois. Londres, ils l'ont fait depuis des années. Moi, je viens de remplir ma Suica sur mon iPhone. C'est la carte qui permet de prendre le métro au Japon et d'acheter des trucs dans les combini. C'est hyper facile. Par contre, je me suis aperçu d'un truc qui est chiant avec la Suica. Tu l'as soit sur ton iPhone, soit sur ton Apple Watch. Mais tu ne peux pas l'avoir sur les deux. Hein ? Ouais, Paris a beaucoup, beaucoup de retard. Hein. Pourquoi on ne peut pas utiliser la carte bancaire pour passer les portiques ? Je pense que c'est pour des questions de commission. Hein. Au Mans, ils ont contourné le souci de bosser avec Apple en gérant tout avec les QR codes. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Apple est coupable entre guillemets hein, de ce retard. Hein. On a beau jeu de se moquer de Valérie Pécresse ou de l'application Île-de-France Mobilité, je pense que Apple a pas. Il doit y avoir des questions de commission aussi. Hein. Ça doit être en discussion. Hein. Sur Android, ça marche hein, déjà normalement. Sur Android, ça marche déjà. Oui, oui, toutes les grandes villes de France ont fait des systèmes avec une carte des maths dans les smartphones. Franchement, Paris est hyper en retard là-dessus. Hein. Bah du coup, Médo et Baron Marutan, vous qui êtes au Japon, votre Suica, vous la mettez sur votre Apple Watch ou ça ? Moi, je l'ai mis sur mon Apple Watch parce que je trouve que c'est plus pratique de payer avec l'Apple Watch qu'avec l'iPhone. Mais ouais, ça me fait stresser aussi. Qu'est-ce qui fait que ça marche autre part, pas en Île-de-France? Je pense que c'est des négociations. Je pense que Île-de-France Mobilité, c'est des machines plus lourdes. Enfin, je veux dire, les transports à Paris, c'est des mécaniques lourdes, hein, avec beaucoup, beaucoup de voyageurs. La gestion des touristes, je dis pas qu'il n'y a pas de touristes dans les autres villes de France. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais Paris est quand même une des villes au monde où il y a le plus d'afflux touristique. Et puis, je pense que aussi, Île-de-France Mobilité n'est pas une entreprise connue pour sa rapidité d'exécution. Voilà, je dirais pas... T'as honte, mais tu l'as toujours pas fait. Ah oui, t'as encore ta carte physique. Là, ils avertissent beaucoup les touristes, Baron Marutan, le Japon, qu'en fait, ils ont une pénurie de cartes à puce pour la Suica Card. Donc, ils conseillent vraiment à tous les touristes de prendre une version dématérialisée de la Suica, parce qu'elle est très dure à avoir en carte physique. C'est le deuxième réseau mondial en termes de voyageurs après Tokyo, le métro parisien. Ah ouais? Non, New York, c'est plus gros que Paris. Non, mais il y a plein de villes beaucoup plus grosses que Paris. Londres, c'est ouais. Non, mais moi, je préfère en démat. Hein. Alors après, j'avoue que la Suica Card d'Osaka, je sais plus comment elle s'appelle, elle est super mimi. Là, en physique, ouais, ça peut être cool. La Suica, elle est pas très jolie. Mais celle d'Osaka, elle est vraiment jolie, ouais. Eh oui, à Paris, il y a les surmulots à transporter en plus. Paris, c'est 2 millions d'habitants pour la ville, 11 millions pour la région Île-de-France, ouais. C'est la Icoca, ouais. La Suica d'Osaka, c'est la Icoca. Et le graphisme est super cool, ouais. À Orléans, on vient de pouvoir payer par carte bancaire dans le tram, ouais. Il y a Passmo aussi, oui. Mais après, il y a des légères différences quand même. Par exemple, Marion, elle a pris l'Icoca parce que pour le remboursement du crédit que tu as sur ta carte, tu ne peux le faire qu'à Osaka. Et comme elle repart d'Osaka, c'est plus pratique que Tokyo. C'est compliqué. Vous allez peut-être le voir bientôt dans une vidéo à quel point ce voyage au Japon est compliqué. Je pourrais presque en faire le titre. On est combien ? 5 personnes, 6 villes à visiter, 2400 points d'intérêt, 3 vidéos à faire. Comment va-t-il organiser son voyage ? Avec 5 personnes qui n'arrivent pas les mêmes jours et qui repartent pas les mêmes jours. Et on va dans 6 villes différentes. Ouais, c'est un peu compliqué. Quel est le but de ce voyage au Japon ? Me prendre la tête actuellement. Disons, comme c'est un voyage qui est... on a 3 semaines de voyage pro... 2 semaines de vacances. Donc en plus, c'est un voyage hybride. Non, c'est pas que des vacances. Non, en fait, moi j'ai 3 semaines de boulot là-bas. Et pas mal de rendez-vous et de contraintes à gérer. Après, je prends 15 jours de vacances là-bas. Non, t'as pas besoin de visa. On travaille pas là-bas. On travaille pour notre entreprise française, mais on va tourner 3 vidéos au Japon. Vous verrez, Manon, vous verrez. Je garantis rien. Il va y avoir une part d'improvisation aussi. Non, l'idée, c'est pas... On déménage pas la chaîne au Japon. Pas encore. Non, en vrai, il n'y a aucune... la fiscalité n'est pas top au Japon. Hein. Si je dois partir, moi, je pars à Malte. Hein. Le mec franc. Bah oui, autant partir aux îles Caïmans ou à Malte, si on doit déménager l'entreprise. Ici, Japon Tech. Non, pas à Vannes, il n'y a aucune défiscalisation bretonne, ou alors on ne m'a pas tenu au courant. Hein. Pour les étrangers, la fiscalité n'est pas si mal que ça. Oui, non, mais peut-être. Après, je ne peux pas dire que j'aime ou j'aime pas le Japon, j'y suis allé que 5 jours dans ma vie pour l'instant. Et même pas 5 jours, on va dire 4 jours dans ma vie. Donc... je veux pas faire genre, je connais le Japon, je suis à Tokyo. C'est un pays fascinant. Je suis pas certain d'avoir envie d'y vivre. Mais putain, on est en train de partir dans les graviers. Allez, go, prochain article. Google Photos, il arrive gratuitement sur tous les Android. Merci. Prochain article. Non, je plaisante. On parlera du Japon demain. Vous me poserez des questions sur le Japon demain. Cool. Dans les lignes de code sur Google Photos, on a vu que Google s'apprêterait à ouvrir l'utilisation des fonctions IA qui pour l'instant était réservé au Pixel 8, les fonctions IA seront disponibles à tous les Android. Et, cerise sur le bateau, oui, cerise qui flotte, quoi, ça serait disponible gratuitement. Or, et ça je ne le savais pas, c'est payant, même pour ceux qui ont un Pixel 8, ils doivent avoir quand même l'abonnement Google One pour profiter des fonctions IA de Google Photos. Là, c'est cool, ça va être gratuit, mais il y a une douille. Ah, vous en doutez bien, il y a une douille. Non, parce que c'est très cool, hein, les fonctions d'IA, moi je trouve ça une très bonne news, mais vous aurez quand même un nombre de retouches limité. Et si vous voulez en faire plus, faudra vous prendre l'abonnement Google One. Donc c'est un peu vas-y, goûte mon IA, c'est de la bonne. Hein? Vas-y, prends, tu vas voir. On fait des trucs incroyables. Tu vas voir, tu vas triper à mort. Ah, t'en veux plus? Tiens, il faut que tu prennes mon abonnement Google One. Voilà. Alors, du Google, oui et non. Parce que Google, l'ancien Google, ça aurait été, c'est gratuit, prenez, utilisez, on a fait juste la meilleure chose du monde et on vous le donne. Parce qu'on est généreux, merci de signer ici, de regarder toutes les pubs et tout. On va vendre vos données pour faire du profilage publicitaire, mais c'est gratuit. Ça aurait été le vieux Google. Le Google 2024, c'est... ok, donc t'as mis des adblocks de partout, tu regardes pas nos pubs et tout le monde nous crache à la gueule parce que on fait du profilage publicitaire. Bah ok, payez un abonnement. Voilà, ça c'est Google 2024. Le gratuit c'est fini, monsieur. En vrai, c'est incroyable le nombre de services que Google nous a mis à disposition gratuitement, gros guillemets. En tout cas, en échange contre l'utilisation de nos données comportementales pour du profilage publicitaire, Google était extrêmement faussement généreux. Maintenant, on a l'impression que la fête est finie quand même. Hein. Nous, il n'y a pas si longtemps, t'achetais un Pixel, t'avais... t'avais tout Google Photos gratuit avec de l'espace de stockage illimité, hein. Enfin, t'avais de l'espace de stockage illimité. Moi, j'avais pris un pixel rien que pour ça. Ah, c'est finito, ça. C'est finito. Maintenant, il faut passer à la caisse. Et, je vous le dis, ça va vous faire pleurer, ça va être de plus en plus comme ça. En fait, quand vous avez aujourd'hui un service gratuit sur le web, vous devriez avoir une alerte dans votre cerveau. Gratuit aujourd'hui ne sera pas gratuit demain. Le gratuit, c'est la première dose vous est offerte, monsieur. Gratuit ou pas cher ne durera pas. Alors, je sais que certains disent « Oui, ben, c'est pas grave, on passera au prochain service gratuit. » Mais ces services deviennent assez bons pour vous verrouiller. Genre, vous mettez toutes vos photos sur Google Photos. Ouais, c'est illimité, j'ai de la place, je garde toutes mes photos, je fais plus le tri. Mes photos et mes vidéos. Et après, ils disent « Bon, ben en fait, pour un teraoctet, ça va te coûter tant. » Ah. Ah. Bon, si t'es pas content, t'as qu'à prendre toutes tes photos et aller ailleurs. Un tera de photos à télécharger. Ah oui, puis désolé, on va pas te laisser utiliser beaucoup de bandes passantes pour télécharger toutes tes photos, là. Donc, faudra patienter. Et puis, puis parfois, ça plantera en milieu de transfert. Et puis, voilà. Copilot, c'est clair. Là, et moi le premier, hein, j'ai foutu Copilot sur mon iPhone. J'utilise Copilot de partout. Là, de Microsoft, c'est gratuit, c'est trop bien. Mais alors, je suis pas naïf. Une fois que Microsoft aura attrapé plein de gens dans leur panier, schlac ! Le paywall qui se referme, schlac ! À la Louis de Funès. De toute façon, c'est un principe commercial vieux comme le monde. Hein. C'est pas non plus les dealers de drogue qui l'ont inventé. Hein. Vous savez, hein, quand sur le marché, votre marchand de fruits et de légumes vous dit « Tiens, goûte la petite clémentine, là. Goûte. » Vous croyez qu'il fait ça de bonté de cœur ? Alors, c'est un bon commerçant. Mais quand on vous fait goûter des fruits au marché... Il y en a un à Vannes, il est incroyable. En fait, moi, quand je vais sur son étal, je fais mon petit-déj. Il me fait tout goûter. Mais il est bon. J'achète tout le temps chez lui maintenant. Parce qu'en plus, il a des super fruits et légumes. Après, t'as Apple. Apple, il n'y a jamais d'échantillon gratuit. Tu payes. Mais bon, au moins, ils ne revendent pas. Enfin, ils n'utilisent pas tes données pour revendre à une partie tierce pour faire du profilage publicitaire. Je pense que c'est là où Apple a vraiment une carte à jouer dans l'IA. C'est arrivé avec une IA vraiment gratuite, en continuant à vendre leurs produits très chers. Est-ce qu'on est sûr de ça ? On est sûr de rien, Odor, mais mène l'enquête. Moi, je l'ai mené jusqu'à preuve du contraire. Apple ne fait pas d'argent en revendant nos données à des parties tierces pour faire du profilage publicitaire. Ça ne veut pas dire que Apple n'exploite pas nos données pour faire un peu de pub dans leur App Store. Donc, on ne peut pas dire qu'Apple ne fait pas de pub avec nos données. Mais d'après mes possibilités d'enquête... et si tu regardes dans le chiffre d'affaires d'Apple, ou alors il faudrait vraiment qu'ils le dissimulent, il n'y a pas d'entrée. Alors peut-être qu'ils ont des entreprises secrètes dans certains endroits du monde. Peut-être. Il y a toujours, faut toujours douter, mais il n'y a pas, il est impossible aujourd'hui de trouver des preuves que Apple fait de l'argent en revendant à des parties tierces nos données. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, voilà, tu peux penser le contraire, que peut-être qu'on nous cache quelque chose. Mais à ce moment-là, on nous cache tout, en fait. En fait, la vraie question, désolé, je passe un peu de temps là-dessus parce que c'est toujours intéressant. Beaucoup de gens doutent que Apple protège vraiment nos données. Je pense que vous avez... Posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas envie de croire que Apple nous ment ? Il y a une tentation... Il y a une tentation à dire... Il y a quelque chose de chelou là-dedans. Et en vrai, moi, je vous dirais le contraire. C'est que si Apple se mettait à revendre en Tsum-Tsum nos données à un truc tiers, le risque, t'imagines, t'es mal à la taille du bad buzz si on arrive à accumuler les preuves, c'est le genre de truc qui peut détruire Apple. Vraiment, hein. Et là, je déconne pas. Le risque n'en vaut absolument pas la chandelle. C'est pour ça que j'y crois, en fait. J'y crois pas parce que Apple, ils sont gentils. Ils sont méchants, Apple. Comme toute entreprise, c'est des méchants. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font pas ça par bonté de cœur ou pour nous protéger vraiment. C'est par intérêt économique. Et c'est pour ça que j'y crois. Parce que ça va dans le sens de l'intérêt économique d'Apple que de ne pas vendre nos données à des sociétés tierces. Donc, je t'ai expliqué, voilà, j'ai pif, pourquoi j'ai envie de croire à leur sincérité. C'est pas que j'ai envie de croire à leur sincérité, c'est que leur sincérité, elle est cohérente avec leur but industriel et financier. Donc, mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que demain, effectivement, un article à scandale va sortir. Ce que Apple nous dissimule depuis 20 ans, c'est qu'ils avaient une société tierce offshore aux îles Caïmans qui revendait nos données contre des milliards de dollars. Peut-être. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais je vous dis que si un jour une news comme ça sort, ça va faire méga mal à Apple. Alors, ne confondez pas tout. La collecte de données, Apple condamné par la CNIL pour les données et l'utilisation des données, ça c'est une chose. Moi, je vous parle de la revente des données à des sociétés tierces. Il faut être précis sur les mots. Parce que dire ces boîtes qui nous volent des données, ce n'est pas comprendre comment ça se passe. Apple aussi, entre guillemets, nous prend des données. C'est ce qu'elles en font. Et qu'elles soient accusées par la CNIL, c'est parce qu'effectivement, elles ont une utilisation peu prudente de nos données dans certains cas. En 2021, ils ont été condamnés. Mais la CNIL n'a pas condamné Apple pour revente illicite de données à des parties tierces et dissimulation de cette vente. Voilà. Mais n'y croyez pas. J'ai envie de dire, très bien pour vous. N'y croyez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Google n'est pas le grand méchant. Google a toujours été clair. Google, c'est leur business model. Google, leur business model, c'est la revente de profilage publicitaire à des sociétés tierces. Je veux dire, ils sont francs hein, chez Google. De toute façon, ils ne peuvent pas le cacher. C'est 90% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est tout, hein. Mais c'est encore une fois, Franck, l'Europe porte plainte contre Apple contre la collecte de données sans le consentement des utilisateurs, ça c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que la société qui collecte les données sans consentement revend ces données pour en faire du profilage. En fait, ils ne revendent jamais les données. Ce qu'ils vendent, c'est le profilage publicitaire qu'ils ont pu faire avec le traitement de ces données. Mais soyez précis, en fait. Parce que c'est très bien d'avoir peur ou d'être sceptique. Mais soyez précisément sceptique. Bref, allez, on passe rapidement. Bah justement, on est en plein dedans. L'AI Act, ou comment encadrer les systèmes d'AI en Europe. L'Europe se rebiffe en ce moment. Hein. L'Europe, elle en a marre de se faire imposer les lois par les GAFAM et toutes ces sociétés de la Silicon Valley qui nous font des IA, des trucs, des machins. L'Europe, elle est en droit de le faire, je le rappelle. Dit, bah non, maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Je trouve d'ailleurs la première phrase de l'article ironique, mais quand même bien sentie. Si l'Union européenne manque encore de fleurons qui pourront lui permettre de concurrencer les États-Unis et la Chine, de fleurons tech, il est un terrain où elle peut véritablement s'affirmer comme leader, celui de la régulation. Et ce n'est pas qu'une moquerie. L'Europe est souvent en avance sur le reste du monde, sur la réglementation, mais elle est souvent derrière imitée par les autres pays, parce qu'on ne fait pas que des trucs cons en Europe, notamment sur la vie privée. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, ils peuvent dire le contraire, mais ils voient bien que, en fait, quand l'Europe commence à mettre des limites à quelque chose, ça fait réfléchir. Voilà. Parce qu'on est un gros marché. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, là, c'est spécifiquement, effectivement, sur l'intelligence artificielle. On en avait déjà parlé, mais ça revient dans l'actualité, puisqu'ils sont quasiment, effectivement, en train de finaliser les textes européens autour des protections des Européens par rapport au système d'intelligence artificielle. J'ai lu l'article plusieurs fois. Ça reste un peu flou, hein, encore, cette histoire. En fait, l'approche européenne s'articulera autour du concept d'IA digne de confiance, Trustworthy AI, et vise à faire de l'Union européenne la pionnière des IA légales, éthiques et robustes. En fait, il y aura un espèce de classement des IA selon des niveaux de dangerosité, on va dire. En gros, ça sera des obligations variables en fonction du système et du modèle d'IA et de son impact. La catégorie des systèmes d'IA, il y aura les IA à haut risque et les IA à risque faible selon ce que tu fais avec l'IA. Par exemple, les IA à haut risque permettront d'être utilisées à des fins de manipulation pour influencer le comportement des individus. Les systèmes d'IA à haut risque s'appliquent aux systèmes susceptibles d'engendrer des conséquences néfastes importantes sur la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des individus. L'utilisation de systèmes d'IA dans les procédures de recrutement, la détermination de l'obtention de droits sociaux ou de l'octroi de l'asile relève de cette catégorie. Donc voilà, en gros, l'utilisation de systèmes d'IA dans des domaines comme la santé, comme l'obtention de droits sociaux, l'octroi d'asile, etc., seront très, très sérieusement encadrés. Voilà. Et derrière, je vais schématiser, mais si vous avez une IA qui corrige vos fautes d'orthographe, ça sera moins encadré. Donc, l'approche n'est pas bête. Toute IA n'a pas le même niveau de dangerosité. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Une IA qui t'aide en orthographe, voilà, des IA qui vont te permettre de changer ton style quand tu écris, ce genre de trucs. C'est pas... Le niveau de dangerosité est relativement bas. J'ai pas dit inexistant, mais relativement bas. Parce que, attendez, si plus personne ne fait de faute d'orthographe, c'est une forme de tyrannie. Hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais par contre, on sait que l'IA, à certains niveaux, peut être extrêmement dangereux. même d'un point de vue de stabilité politique d'un pays. Donc, l'approche est intéressante, mais d'après les spécialistes, ça ne va pas encore assez loin et ce n'est pas assez précis. Il est reproché actuellement à l'AI Act, qui est en train d'être rédigé, et notamment les critiques viennent de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, qui se montrent particulièrement réticentes à l'égard des dispositions, parce qu'ils ont peur que ça devienne un frein au développement de l'IA et que ça nous fasse perdre en compétitivité par rapport au développement de l'IA anglo-saxon ou chinois ou dans d'autres pays. Il ne faudrait pas non plus que l'Europe se fasse mettre des bâtons dans les roues avec ses propres réglementations, ce qui nous ferait prendre 20 ans de retard, quoi. Parce que ça se surprotège, oui, voilà le mot que je cherchais, merci. Que ça vous plaise ou non, l'Europe n'a pas décidé de faire comme le Japon à une époque, de fermer ses frontières et de couper le contact avec l'étranger complètement. Donc, que ça vous plaise ou non, nous vivons dans un monde où les autres ne vont pas nous attendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire toutes les conneries qu'ils font sous prétexte de ne pas perdre en compétitivité, mais ça veut dire quand même qu'il ne faudrait pas non plus tirer des balles dans le pied et se plaindre 20 ans après qu'on est à la traîne et que économiquement, on chie, quoi. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et comme le dit cet article, on est novateur sur les réglementations. Est-ce que ChatGPT est toujours banni en Italie? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Mais effectivement, l'Italie avait décidé de ban ChatGPT. Hein. Et on n'a aucune raison de se laisser imposer les lois. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'a pas Google qu'on doit. C'est pas parce qu'on n'a pas un Google européen qu'on doit laisser Google faire ce qu'il veut en Europe. Ça, je trouve, c'est un argument débile de dire ah bah on n'avait qu'à faire un Google européen. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais il faut confirmer son âge. D'accord, Jess, qui est en Italie, nous confirme. ChatGPT n'est plus interdit en Italie, mais il faut confirmer son âge. D'accord. Il suffit de choisir si on protège les populations ou le business. Je pense que l'entre-deux est possible. Pourquoi l'Europe n'a pas inventé son propre Google? Va voir notre vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube. On explique un petit peu. Une petite mouche en basket. On a fait une vidéo. Actuellement, son titre, c'est « Pourquoi l'Europe a raté Internet ?» Je crois que c'est le titre actuel, parce que les titres de vidéos, on les change. Ce n'est pas une vidéo qui a très, très bien marché. Mais bon. Elle est ce qu'elle est et elle explique un petit peu pourquoi, effectivement, l'Europe n'a pas développé son Google. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un Google européen qu'on n'arrivera pas un jour à faire une société tech compétitive. Il n'est jamais trop tard. Tout change. Tout change. Tu sais, Google... moi, j'en parle beaucoup en ce moment, mais Apple peut être très fragilisé s'ils prennent trop de retard sur l'IA générative. Hein. Croyez pas que nul empire est immortel, nulle société est too big to fail. Une mauvaise décision, on le redit, c'est des vieilles portes qu'on enfonce, mais des Kodak, des Panam étaient des sociétés aussi fortes et puissantes que le sont des Apple et des Google. Elles ont fait quelques mauvaises décisions, elles ont disparu dans les limbes de la mémoire. Donc, ne croyez pas que tout est figé, tout est fini. Hein. On ne vit pas la fin des temps, hein, a priori. Donc c'est très bien que l'Europe se rebiffe. Très très bien que l'Europe se rebiffe. Allez, j'en suis où? Allez, on va essayer de terminer avant 10h. C'est pas gagné, mais quand même. On va essayer. Samuel, j'essaye. TikTok. TikTok sort une nouvelle app. On a l'impression qu'ils en sortent une par jour en ce moment. Marion vous parlait de la nouvelle app TikTok qui s'appelait Note. Qui va être dédié à la photo, mais moi, je vais vous parler de TikTok Lite. TikTok Lite, dont le but, ça va être de faire gagner de l'argent simplement en visionnant des vidéos. Oh, mais trop bien! On va vous payer pour regarder des vidéos TikTok. Ah, ça devient génial, du coup, TikTok. Alors, comment ça va se passer? À la fin du mois de mars, cette nouvelle application est apparue en France et en Espagne. Donc, moi, je ne l'avais pas essayé, je n'étais pas au courant que je pouvais gagner de l'argent. Mais elle n'est disponible que sur les smartphones Android. Ah, bah j'en ai, ok. Plus vous interagissez avec cette application TikTok Lite, plus vous regardez de vidéos, plus vous les likez, etc., plus vous serez récompensé. Ainsi, simplement en se créant un compte, vous allez gagner déjà 300 pièces virtuelles. Pas 300 euros, hein, 300 pièces virtuelles. Si vous suivez 3 créateurs sur la plateforme, à chaque fois, vous remporterez 150 pièces virtuelles. Mais il faudra interagir avec eux. N'allez pas vous amuser à suivre. Puis je crois que c'est limité aux 3 premiers. Bon, bref. Il existe d'autres moyens de gagner encore plus de pièces virtuelles. Vous en gagnerez 4500 en vous connectant 10 jours d'affilée. Donc si vous connectez tous les jours à TikTok Lite, vous gagnez 4500 pièces. Et si vous regardez pendant plus de 25 minutes des vidéos, vous gagnez 4200 pièces. Waouh ! C'est incroyable ! Ces pièces virtuelles, ensuite, pourraient être transformées en chèques cadeaux qui seront uniquement valables sur Amazon pour l'instant, mais c'est pas mal. Ça fait pas mal de chèques cadeaux. Il faudra gagner 10 000 pièces virtuelles pour obtenir un chèque cadeau de 1 euro. Ah ! Déjà, ça se complique un petit peu. Mais en vrai, c'est pas si mal. TikTok est en train de tester cette nouvelle formule, ce qui explique que la firme n'a pas encore communiqué sur cette application. L'objectif, quant à lui, et limpide, attirer toujours plus d'utilisateurs sur sa plateforme. Je vais vous résumer avec mon opinion ce que je viens de dire. Un vendeur de drogue va maintenant vous payer pour utiliser de la drogue. En tout cas, les premières doses. Ça va au-delà de la gamification. Là, en fait, je vais vous dire comment ça va se passer. Parce que là, la question que vous devriez se poser, si vous avez suivi l'entraînement commando Nowtech, la question que vous devriez avoir tout de suite dans la tête là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devriez me demander là? On va voir si notre entraînement commando a fonctionné. Qu'est-ce que vous devriez me poser comme question? Comment ils font du fric? Bistro Pixel, bravo. Je te donne le champignon d'honneur, le louveteau d'honneur du Survival Camp Nowtech. Mais comment ils font de l'argent si en plus, ils nous payent pour regarder les vidéos? Ben, en fait, c'est simple. En faisant ça, ils vont gagner plus d'argent. Je vous explique. Comment ça va se passer? Au début, ils vont vous donner des pièces virtuelles pour des actions simples. Abonnez-vous, suivez des créateurs, regardez des vidéos et vous aurez des pièces virtuelles. Et petit à petit, vous allez arriver à vous faire des bons de réduction de 10 euros sur Amazon. Ils auront d'abord signé un deal avec Amazon. C'est-à-dire que eux, ça leur coûtera 3-4 euros un bon de réduction de 10 euros chez Amazon. Normalement, ça fonctionne comme ça. Ça leur coûtera pas 10. Ils vont pas devoir donner 10 euros à Amazon. Voilà, ça se négocie en gros. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qu'ils vont commencer à vous demander à faire dans les challenges, c'est pas uniquement de vous connecter tous les jours et de regarder 25 minutes de vidéo. Ça va être fait. Si tu regardes cette publicité, tu vas gagner un boost x2 à ton nombre de pièces. Et imaginons, hein, ça va te faire gagner, regarder une pub, ça va te faire gagner 2 à 3 000. Pour chaque pub, regarder 2 à 3 000 pièces. Ce qui, eux, va leur coûter 3 centimes. Si mes calculs sont bons. Au final, la pub leur rapportera plus que ce qu'ils vont éventuellement payer à Amazon pour le bon de réduction. Et ils auront fait beaucoup plus de performances publicitaires que si vous deviez regarder la pub en âme et conscience. En fait, c'est exactement le genre de truc qui va se mettre en place pour combattre les adblockers. Et ça commence. On va vous faire gagner de l'argent pour vous éviter de mettre des adblockers. Est-ce que les annonceurs ne vont pas considérer ça comme une vue non pertinente ? Non, au contraire, les études prouvent que... Vous savez, par exemple, moi en ce moment, j'essaie d'apprendre 2-3 mots de japonais sur Duolingo. Duolingo, dans la version gratuite, il y a souvent dans vos cours, si tu regardes cette pub, je pourrais débloquer un cœur, machin, ce genre de trucs. Et en fait, une étude prouve que ces pubs qu'on regarde pour débloquer des choses dans les apps gratuites sont ultra performantes. En fait, notre attention est assez bien retenue par la pub. Donc, les publicitaires sont prêts à payer relativement cher pour ce type de pub. Parce que tu as choisi de la regarder. Ça a un peu des performances qui sont semblables aux pubs cinéma. Les pubs cinéma ont de très bonnes performances parce qu'on est dans un lieu détendu et beaucoup de gens considèrent les pubs au cinéma comme un divertissement. Donc, ils sont dans la meilleure réception publicitaire possible. Pub radio, non, c'est une des moins efficaces, la pub radio. En fait, ça dépend des produits. Là, on ne va pas partir dans les cours de pub, mais... Donc voilà. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que déjà TikTok, et c'est clair, TikTok a un algorithme de machine à sous qui maintenant va rapporter des sous. Imaginez quand même si on vous donnait un petit peu d'argent pour consommer de la drogue. Les dérapages possibles et les problèmes d'addiction. C'est pas comme ça, TikTok, qu'on va régler les problèmes d'addiction à TikTok. Hein. Donc, méfiez-vous quand c'est gratuit, méfiez-vous encore plus quand on vous paye pour faire ce genre de truc. Ça c'est un peu ce que j'avais envie de vous faire passer comme message. Ça peut paraître cool parce que vous êtes récompensé, mais le grand gagnant, c'est pas vous hein, dans ce genre d'histoire. Après, c'est votre choix. Hein. C'est fou quand même tout ce business autour de la pub et du marketing en général. En même temps, c'est le nerf de la guerre du commerce. Hein. Le commerce n'a jamais existé sans marketing et sans pub. On n'appelait pas ça de la pub et du marketing autrefois, mais c'est le nerf de la guerre du commerce, en fait. Donc non, ce n'est pas surprenant du tout qu'il y ait autant de business autour de la pub et du marketing. Je veux dire, tu peux faire le meilleur produit du monde. Le bouche à oreille étant du marketing, une fois que vous aurez compris ça, tu peux faire le meilleur produit du monde, la meilleure vignette du monde. Si tu ne fais pas un peu de marketing autour de ce que tu crées, bah personne ne te voit, personne ne t'achète, personne ne rien. La première fonction de la publicité, désolé de rappeler des fondamentaux, c'est de vous informer qu'un produit existe. C'est le degré zéro de la publicité, mais c'est une de ses fonctions premières. Hein. C'est pas forcément de vous influencer pour acheter absolument ce produit. Regarde mes yeux qui tournent. C'est déjà pour vous dire, hey mec, on fait des pots de peinture chez Leroy Merlin. Eh ouais, ils sont à tel prix. Eh ouais. Tu le savais pas, hein? Bah, tu vois, t'as besoin de pots de peinture. Bah, nous, on en a. Ah, fonction première de la publicité. Et c'est pour ça que les anti-pubs, les ayatollahs de l'anti-pub, rendez-vous compte, un monde sans pub, vous seriez à la merci du commerçant du coin. C'est le seul qui aura assez de portée publicitaire. Donc, si votre boulanger, il est pourri, vous serez coincé. Vous n'aurez plus le choix. Pour acheter, il faut aimer. Pour aimer, il faut connaître. Oui, oui. Je dirais que c'est la première minute de cours de marketing, on va dire. Il ne faut pas oublier les vertus de la pub. Hein. La pub, ça permet à la concurrence de fonctionner. Et sans pub, vous n'êtes pas au courant de la concurrence. Donc, les prix vous sont imposés, soit par un État, soit par le commerçant le plus proche. Mais et après, on déteste tous la pub, mais c'est pas pour ça qu'elle ne fonctionne pas. Les pubs qu'on aime sont généralement des pubs qui fonctionnent pas du tout. Par contre, des pubs qui irritent un peu, non, bah elles fonctionnent bien. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Bon, allez. On va passer quand même au dernier article. Attention, article à friction. Je préviens, aucun débordement ne sera toléré par notre modération. Ils ont un entraînement aux techniques de combat du chat. Ils vous font une prise en 2-3 mouvements. Je sais que ce genre d'articles peuvent réveiller certaines velléités et que généralement, j'y expose mon opinion personnelle. Donc, voilà, vous êtes prévenus. J'ai trouvé l'article assez intéressant et ça fait réfléchir. Qui sont ces internautes ingénieurs du chaos qui veulent voir le monde brûler? Brigitte Macron dénoncée comme une personne transgenre, le cancer de Kate Middleton ou l'existence d'un lien entre le vaccin ARN et les maladies Creutzfeldt-Jakob. Si on trouve autant de fake news sur le web, c'est parce qu'il y a des internautes suffisamment motivés pour les créer et les partager à l'infini. En gros, ce qu'on appelle communément les complotistes, les « je ne contracte pas », si vous avez suivi la dernière trend, les pro-Poutine, qui traînent beaucoup sur les réseaux sociaux, eux, en tout cas, l'ADN, les appelle les ingénieurs du chaos. Moi, je trouve qu'ingénieur, c'est un mot... c'est pas gentil pour les ingénieurs, mais on va dire les adorateurs du chaos, plutôt. Donc, ces gens-là... Alors, il faut bien différencier deux choses. La création d'une fake news et sa propagation. Là-dedans, on pourrait rentrer dans les détails. Il y a aujourd'hui des usines de création de fake news, on le sait, c'est, enfin voilà, que ça soit en Russie, il y a voilà des gens qui se sont spécialisés dans le forgeage de fake news bien croustillantes, prêtes à être partagées. Mais après, il y a tout un relais qui est pris et c'est surtout de ces gens-là dont on va parler. C'est pas la création de la fake news, c'est plus la propagation de la fake news. Ces internautes, donc ces complotistes qu'on les appelle, les propagateurs de fake news, ont longtemps été catégorisés par les chercheurs comme des partisans politiques d'extrême. Mais une méta-étude, c'est une étude basée sur d'autres études. Donc là, il y a une méta-étude qui est basée sur 8 autres études, a été publiée dans la revue américaine de sciences politiques de Cambridge, qui apporte un éclairage nouveau sur ce qu'on appelle les ingénieurs du chaos. Donc les scientifiques les appellent les ingénieurs du chaos. Donc les propagateurs de fake news. OK ? D'après les chercheurs, ces propagateurs de fake news qui partagent des rumeurs hostiles sont plus motivés par une envie de perturber et même détruire l'establishment social et politique plutôt que de soutenir un camp politique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là forcément comme des militants d'un extrême ou d'un autre. Ce qui les excite le plus dans la propagation de ces fake news, c'est la perturbation et l'envie de détruire l'establishment social, le bien-pensant. Ou les moutons, ou les c'est quoi, il y a moutons-pigeons, là, les piges-moutons. Nous, quoi. Enfin, moi, je suis un mouton woke. Avec un pigeon parce que j'achète Apple. Voilà. Au moins, ça, c'est fait. OK. Mais c'est très intéressant après. Les individus qui font preuve de ce comportement agressif, parce que partager une fake news hostile est un comportement agressif, sont généralement ceux qui subissent le plus le déclassement social. Donc, il a été scientifiquement prouvé que plus un individu est déclassé socialement, en gros, plus il est humilié socialement, plus il se sent sur le côté de la société, plus il va être enclin à appartenir aux relayeurs de fake news. OK ? C'est l'étude, hein. En d'autres termes, les ingénieurs du chaos font tout pour déstabiliser le système politique établi, non pas dans l'espoir d'un grand soir collectif ou d'une révolution, mais plutôt pour atteindre un statut social individuel plus élevé. Ça peut sembler un paradoxe, mais en se donnant une importance avec une fake news relayée, c'est afin de regagner un échelon social, en fait. C'est pour revenir dans la masse, j'oserais le dire. C'est pour avoir un sentiment d'appartenance et de connaissance dont ils se sentent spoilés par une bien-pensance majoritaire, en fait. En tout cas, c'est moi, comme j'ai compris, les conclusions de cette étude. Et le plus intéressant, c'est la conclusion de cette étude. Et là, écoutez bien. L'étude conclut que la désinformation reste un problème relativement localisé. C'est-à-dire que les fake news, c'est pas si énorme que ça. Même si on a l'impression qu'il y en a partout, et notamment les pro-Poutine et tout ça, j'ai l'impression que ça envahit les réseaux sociaux. Je ne vois plus que ça quand je me connecte, même si je n'ai pas envie de les voir. Bien, en fait, cette étude montre que 70% de la désinformation climato-sceptique n'émane que de 10 médias. Donc, 70% du brouhaha climato-sceptique ne provient en fait que d'un nombre très, très réduit de médias. Donc, ce n'est pas une espèce d'opinion. Mais on peut dire la même chose, par exemple, sur les masculinistes. Les masculinistes, on en parle beaucoup, ils font beaucoup de dégâts en ce moment. Mais en vrai, ils sont très peu, il y a très peu de médias. Mais ils font beaucoup, beaucoup de bruit. Et ils disent des trucs qui choquent et qui sont créés pour choquer. Parce que quelque chose qui choque et qui est indigne, ça lui donne une puissance, ça donne une puissance à la fake news énorme. C'est des boosters, l'indignation, en fait. Vous comprenez comment ça marche ? Mais ça devient encore plus intéressant. Si aussi peu d'individus peuvent être qualifiés d'ingénieurs du chaos, ces derniers gagnent toutefois en force et en impact grâce à la connexion sur les réseaux sociaux et peuvent être amenés à s'engager dans des actions violentes pour aller jusqu'au bout de leur logique. Et c'est là où ça devient le plus dangereux. L'insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 aux États-Unis est l'exemple parfait de finalement cette population soudée. Bah, ils ont essayé de faire un coup d'État. Et ça ne s'est pas passé qu'aux États-Unis, ça s'est passé au Brésil récemment. De plus en plus, ces gens-là remettent en cause la notion même de démocratie dans les démocraties et ébranlent très fortement les systèmes, même si c'est des minorités. Et aucun pays démocratique aujourd'hui n'est à l'abri de cette instabilité générée par un faible nombre, mais on voit aux États-Unis à quel point... Enfin, bref, on va jusqu'au bout de l'article, parce que très, très intéressant ce qu'ils disent après. Et en fait, ce que les scientifiques disent, c'est que pour contrer cette menace, les chercheurs estiment que le fact-checking est inutile. Il ne sert à rien de faire du fact-checking. Et que seule une politique de réduction des inégalités économiques et culturelles peut avoir de l'effet sur le long terme. Sur le long terme. Le silence, la moquerie et l'exclusion de ces internautes ne font qu'exacerber leur sentiment de marginalisation et alimentent leur opinion anti-système. En d'autres termes, ériger des camps de la vérité contre ceux du mensonge sur les réseaux, comme peut le faire toute une frange de spécialistes du fact-checking, ne fait qu'augmenter le problème. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que, oui, on se dit, mais ces gens, ils sont complètement cons. Mais comment on peut croire ça ? Et je pense, ceux qui ont suivi l'histoire du « je contracte, je ne contracte pas », bien sûr, quand on a vu la vidéo, on a dit, mais comment ça peut exister des gens comme ça ? Et on a envie de dire, non, mais il faut leur dire qu'ils vivent dans un autre monde, quoi, qu'ils sont à l'ouest de l'ouest, quoi. Mais en fait, et qu'on doit leur présenter des faits, et qu'on doit leur montrer que ce qu'ils pensent est basé sur rien, sur la théorie du complot qui tient pas. Il faut faire du fact-checking avec ces gens-là. Ben, ce que disent les chercheurs, c'est que ça ne sert à rien. Rien du tout. Ça ne sert absolument à rien. Et en traitant ces gens-là de débiles, en les méprisant et en les excluant, donc même en les shamant... merde, c'est quoi le terme ? En les cancelant, en faisant du cancel, on ne fait qu'augmenter le problème qu'on a avec ces gens-là. Et que la seule solution long terme, c'est de travailler sur les inégalités sociales. Et les inégalités culturelles aussi. Je trouve ça hyper intéressant. En les ghostant, oui. Et justement, il y a beaucoup d'analyses politiques qui disent c'est exactement comme ça qu'aux États-Unis, le trumpisme est devenu triomphant. À force d'exclure ces gens-là du système en disant « Vous êtes trop des cons, vous comprenez rien à rien, on ne veut pas vous écouter », ces gens-là s'amalgament les uns les autres, Ils n'ont pas toujours la même vision du monde, mais ils ont une constante. C'est qu'ils se sentent soudés dans l'anti-système. Et ce n'est pas tant Trump qu'ils soutiennent, c'est plus l'anti-establishment, l'anti-système, qui est le liant de ces groupes-là, et qui est un liant extrêmement fort et de plus en plus fort. Et voilà, c'est la porte ouverte à tous les populismes et tous les excès qu'on a déjà connus dans l'histoire. Et tu vois, mais je comprends hein, pourquoi vous dites ces gens sont débiles, ces gens ne méritent pas beaucoup de considération, etc. C'est pas la solution non plus. Alors, je vais pas dire non plus que vous devez accueillir des complotistes chez vous le dimanche pour. Mais en fait, essayer de leur expliquer à quel point ils ont tort ne sert pas à grand chose. On devrait plutôt garder de l'énergie de nos sociétés pour trouver comment réduire au mieux possible les inégalités sociales et culturelles. Et non pas s'échiner à leur dire qu'ils ont tort, les mépriser parce qu'on estime qu'ils sont teubés. Parce qu'en fait, on les endigue de plus en plus, en fait. Et c'est pas un chemin évident, hein. Non, mais je suis d'accord, hein. Et moi, le premier, hein, attention, je ne suis pas en train de m'ériger en chevalier blanc, j'ai le slip bien sale. Moi, le premier, quand je vois ces mecs-là, oh, je suis là, mais mon Dieu, mais qu'il est bête! Mais c'est pas possible de penser ça, quoi. Mais comment? Mais il faut que, je résiste à ça. Je suis un chevalier gris, ouais. Ardis nous ghost. Il est là, Ardis, qui nous a ghosté. Ardis nous ghost, du coup, on est jéromiste. Même constat. Ardis vous a ghosté. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est exactement ça qu'explique l'article Toreinki. Ils sont rarement bêtes, en fait, ils sont juste mobilisés pour détruire parce que rejetés par les autres. Leur souhait être important aux yeux des autres. Ah ben bien sûr, de toute façon... Là, en fait, ce type de dynamique sociale est le terreau parfait du populisme. Donc, des Trump et d'autres hommes politiques populistes savent que ce type de population, et c'est des masses importantes, hein, quand je disais, ils sont minoritaires. Là où ils sont minoritaires, c'est parfois dans les combats qu'ils mènent, mais par contre, là où ils sont majoritaires, c'est dans le sentiment d'être rejetés par l'establishment. Là, ça, c'est les unis. Et ça devient, notamment en période de crise, des pouvoirs immenses. Je veux dire, c'est l'Allemagne en 35. L'histoire ne se répète jamais tout à fait et exactement pareil, mais il y a quand même des grosses tendances. Le populisme ne naît jamais dans des périodes d'opulence et des périodes de concorde sociale. Le populisme naît toujours quand il y a un gros clivage dans les sociétés et où une partie de la société se sent rejetée par une autre partie de la société. En fait, si on revient à l'histoire de la semaine dernière, alors je le réexplique rapidement pour ceux qui n'avaient pas vu, un couple se fait arrêter par la police dans une vidéo qui est devenue virale, et ce couple est dans une mouvance, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une mouvance qui dit que tous les pays sont des industries, enfin ça va assez loin, et qu'en gros... la police, c'est une espèce de garde privée. Les citoyens souverains, voilà. La mouvance s'appelle les citoyens souverains. Et donc, dans la vidéo, ils refusent de présenter leurs papiers à la police et de descendre du véhicule. Et ils répètent souvent la phrase « on ne contracte pas ». C'est-à-dire qu'eux estiment que d'écrire leur nom en minuscule vaut pour... dès que tu écris ton nom en majuscule, ça veut dire que tu contractes, donc que tu signes le contrat de la société État France, et que tant que tu n'as pas signé ce contrat, tu as le droit de faire ce que tu veux. Je résume, hein, mais en gros, voilà, je ne contracte pas. Bah, la phrase a un sens dans leur réalité à eux. Tant qu'ils ne contractent pas le contrat, ils sont hors contrat, hors société. Vous savez, une entreprise, on appelle ça une société aussi, hein. Les mots sont toujours intéressants. Non, ce n'est pas qu'en France. C'est une mouvance complotiste mondiale, les citoyens souverains. Et ça s'est surtout développé aux États-Unis. Bon, enfin, il y a des raisons. Enfin, il y a des raisons. Le rapport des États-Unis avec le fédéralisme des États-Unis est très complexe. Et les Américains, depuis longtemps, ont un rapport complexe avec leur gouvernement central. Bref, tout ça pour dire, quand on entend une vidéo comme ça, et moi le premier, hein, franchement, je ne suis pas un enfant de cœur, j'ai éclaté de rire quand le mec se fait défoncer la fenêtre par le policier, parce que bah, le policier, il reste calme hein, au début. Hein. Mais au bout d'un moment... Parce que bon, en plus, on sent que... Après, c'est des hypothèses, mais on sent quand même que ça a un peu bu, quand même. Voilà. Oui, il est presque 10 heures. Je termine quand même. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? La première tentation, c'est effectivement de se moquer de ces gens-là. Tu contractes avec Naotech. Ouais, contracte bien, Léo. Ça évite de se faire. Bref, la première tentation, c'est de se moquer. Mais en fait, j'essaye de penser comme ça. Comment ils en sont arrivés là ? Comment ils en sont arrivés là ? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Comment il faudrait... Et il ne faut pas qu'on coupe le dialogue avec ces gens-là. Ils font tout pour couper le dialogue avec nous. Et nous, on a très envie de couper le dialogue avec eux, de les ignorer, de dire non mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Enfin c'est comme les platistes, c'est comme des gens. Enfin vous avez vu les gens qui disaient mais comment la lune peut masquer le soleil alors que la lune est beaucoup plus petite que le soleil. Je comprends, c'est désespérant, on a envie de dire mais c'est perdu quoi. Mais en même temps, c'est exactement en excluant ces gens-là de la société qu'on crée les phénomènes de populisme. Et oui, alors éprouver de la peine, attention, la peine, c'est un peu condescendant. En fait, je crois qu'il faut se demander comment on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi on a des gens qui sont à des niveaux de croyance ? Pourquoi ? Pourquoi ces théories émergent ? Elles ont toujours émergé. Hein. Mais... Et il y a effectivement les réseaux sociaux qui sont un relais très puissant. Ça, c'est la nouveauté de notre époque. C'est que même des idées complètement ont un porte-voix puissant, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ? Quel est le refus ? À quel moment ces gens-là ont trouvé un refuge dans ces pensées-là, quoi ? À quel moment notre société s'est présentée tellement hostile à ces gens-là qui sont allés se réfugier dans ces pensées-là. Le Covid a fait... Non, je pense que le... Alors, en fait, le Covid nous a permis de voir la puissance actuelle de ces mouvances, en fait. Ouais, non, mais pourquoi on les a exclus comme ça du système? Pourquoi ils se sentent aussi exclus du système? Bah, voilà, après, il y a des réponses concrètes, économiquement. Et là, je ne fais pas un discours politique, j'essaye de faire un discours logique. Économiquement, les disparités sociales ne se sont pas forcément agrandies, elles ont même rapetissé, mais par contre, effectivement, déjà, il y a une ultra-richesse qui s'est créée ces dernières années, qui crée, c'est juste la logique, qui crée un ressentiment immense. Donc, je pense que là-dessus, y a probablement quelque chose à faire. Et je vais aller très loin dans ma pensée, mais en ce moment, et moi je pense que c'est un progrès social, on réfléchit beaucoup sur l'inclusivité, de rendre notre inclusivité de plus en plus inclusive. Donc y a des luttes sur le féminisme, sur toute forme de racisme, etc. Il va falloir qu'on étende à l'agisme aussi, parce que pour l'instant, par exemple, ça, c'est une inclusion qu'on pratique mal. Il va falloir aussi qu'on trouve comment mieux inclure ces gens-là dans le débat commun et qu'ils ne se sentent pas autant exclus, au point d'adhérer à ces idées-là qu'ils ont. Mais c'est très intéressant que les chercheurs disent « ça sert à rien de faire du fact-checking avec ces gens-là ». C'est pas ça qui les fera changer. C'est pas de leur montrer qu'ils ont tort. C'est pas de leur montrer la courbure de la Terre avec des algos, des photos et tout ça. Ça les fera pas changer d'avis. Parce que le problème n'est pas ce qu'ils pensent, mais c'est pourquoi ils le pensent. Pourquoi ils en sont là, en fait. Donc, il faut contracter avec eux. Exactement. Je sais que c'est pas facile. Il paraît qu'il y a un très bon bouquin en ce moment qui parle de l'entourage. Quelqu'un qui parle de son frère qui est devenu archi-complotiste. Et je sais que c'est très difficile dans certaines familles. Et le confinement a été un point d'orgue là-dessus. C'est que tout le monde se souvient des repas de famille, si vous avez vécu ça, les repas de famille de Noël à distance ou les trucs, ou dans une même famille, les divergences d'opinion sur l'existence même du problème a été assez houleux, quoi. Bah, les choses continuent aujourd'hui sur l'immigration, sur le féminisme, sur les woke, sur tout ça, les clivages. En fait, il faut aussi se poser la question à qui profite le crime. Et moi, personnellement, je les vois très bien, les partis politiques, populistes, des deux bords, qui profitent de la situation. Et ça me donne envie de gerber. Parce que là, pour le coup, je ne veux pas faire mon historien de balle, hein, je suis vraiment un historien du dimanche. Putain, c'est pas la première fois que tout ça se passe, quoi. Franchement, on a beau avoir Internet, des smartphones et se croire l'être humain le plus abouti qui ait jamais existé sur la planète, je veux dire, les dynamiques qui se mettent en place actuellement dans le monde, putain, on les connaît, on les connaît. Et on sait comment ça se termine. Ton frère est devenu complètement... En fait, j'ai pas de conseils à vous donner. Moi, j'avoue que j'en ai aussi hein, dans ma famille. Hein, des gens qui ont viré dans des formes de pensée. Je peux pas les suivre, quoi. J'ai un peu coupé les ponts avec eux, je dois avouer. Ou alors, on s'est fait un accord de ne pas aborder certains sujets. Voilà. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Il y a certains membres de ma famille, on a des divergences politiques trop profondes ou de vision de la société qui est trop profonde. Donc, on a choisi, nous, de garder l'harmonie familiale. Donc, on a décidé d'un commun accord, notamment après 2-3 dîners de famille houleux, que certains sujets étaient interdits parce qu'on voulait préserver notre famille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Bref, ouais, j'ai envie de gerber quand je vois des hommes et des femmes politiques profiter de cette situation qui s'est déjà produite dans l'histoire. On sait la puissance du levier politique du populisme. Le populisme, il ne faut pas y croire. Faut pas croire. Hein. Ce n'est pas des petits groupuscules. Le populisme a gagné des élections. Le populisme triomphe dans certaines situations. Très dangereux. Après, le populisme se transforme, une fois qu'il est au pouvoir, généralement en quelque chose de bien, bien dégueulasse. Je n'ai pas d'exemple dans l'histoire de populisme qui est bien terminé. Hein. Bref, comment on est arrivé d'un sujet tech à un sujet comme ça ? Eh bien, voilà. Pour moi, quand même, les ingénieurs du chaos utilisant les réseaux sociaux étant une composante fondamentale de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans le relais de certaines idées, pour moi, c'est de la tech. Parce que les réseaux sociaux font partie de la tech, sont nés de la tech, et la responsabilité de la tech aussi. Voilà. Non, le populisme ne veut pas dire peuple, hein, Sir Newt. Voilà. Bon. J'ai pas la définition Wikipédia du populisme, mais pour moi, ça se résume assez simplement le populisme. C'est apporter une réponse simple à des problèmes complexes pour obtenir l'adhésion d'une large majorité. C'est que tu prends un problème complexe, immigration, problème économique, ce que tu veux, et tu lui donnes une réponse simple. Enfin, facile à comprendre, fausse, mais simple. Et voilà. Le problème que monsieur a, c'est à cause de ça. Voilà. Et c'est tout. Parce que la complexité des problèmes, ben personne n'aime ça. Hein. Oui, ben c'est effectivement, et voilà, une grande phrase du populiste, c'est de dire « Ces élites vous ont menti ». La bien-pensance. Le politiquement correct, et oui, il est 10h10, le politiquement correct voudrait que je coupe l'émission. On nous cache tout, on nous dit rien. Allez, sur ce, effectivement, on est parti un peu dans une discussion du vendredi. Du coup, on va parler de quoi demain ? Bah, on verra bien. On verra bien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse un peu avec ce tas de réflexions. Et on se retrouve demain. On pourra aussi continuer à en parler. On va faire un petit raid pour terminer l'émission. On va faire un petit raid de chez qui ? On va faire un petit raid. Qui j'ai là ? Je suis pas allé voir depuis. Ah bah tiens, Ninon, qui est au Japon. Allez, elle est en train de jouer à No Man's Sky. Cool. Allez, un petit raid chez Ninon. Ninon, d'ailleurs, c'est pas Ninon, c'est Ninon, je prononce mal. Allez, je vous dis à demain matin pour le... J'allais dire le raid du vendredi. Non, le mug du vendredi. Le mug cool. Celui du jeudi, il est moyen. Celui du vendredi, c'est le mug cool. Ce soir, jeudi contributeur pour les contributeurs à 18h. Hein. Vous retrouvez toutes les informations pour vous connecter au live contributeur sur le Discord. N'hésitez pas à poser des questions sur le Discord si vous êtes contributeur et que vous ne savez pas rejoindre le live contributeur, live privé du soir, du jeudi soir. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Attention, raid. Je lance le... Merde, il est où le bouton ? Ah, il est là. Allez, ciao, à demain.